Salut tout le monde, merci d'être là. J'espère que votre moral est aussi beau que le mien et que la température aujourd'hui, on attache nos ceintures puis on part. Situation invraisemblable à l'Institut psychiatrique Douglas. Des enfants en difficulté sont maîtrisés devant les autres. Ils sont tous traumatisés. Alors, de un, nos enfants psychiatrisés ont-ils les soins dont ils ont besoin? Puis deux, connaissez-vous l'angoisse de compassion? Ça massacre les soignants en situation de détresse. Je vous en reparle tantôt. Des victimes d'actes criminels mènent une bataille pour faire reconnaître leurs droits. Ils ont déposé un recours en Cour suprême. On va discuter aussi de la pénurie de logements à Montréal. Savez-vous qu'à un moment donné, ça mène à la rue, tout ça. C'est commencé. Et on a avec nous l'astronaute et l'ancien astronaute et gouverneur général du Canada, Mme Julie Payette, qui sera avec nous autres. Bienvenue.
Trainville PM.
Alors, ce qui se passe à l'Institut Douglas est assez grave. Là, on a des enfants qui sont... Évidemment, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont déjà traumatisés. Ils vont déjà très, très, très mal. Ils viennent de familles où c'est difficile. Ils viennent d'endroits de violence. Ils viennent de... Et tout ça. Et j'ai toujours l'impression qu'on a bien de la misère à attacher nos bouts ensemble puis avoir les bonnes ressources pour s'occuper de nos enfants qui souffrent. Alors, on a avec nous José Asselin, au téléphone, qui est représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel des techniques de la santé et des services sociaux. Bonjour, Mme Asselin.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien, et vous?
Oui, je vais bien, mais là, je pogne les nerfs un peu. Alors, à l'Institut Douglas, qui traite à peu près une vingtaine de jeunes patients, est en sérieux manque de personnel, ça a l'air. Puis des enfants qui viennent souvent d'une famille où la violence est présente doivent assister aux interventions où d'autres jeunes sont en état de crise. Et donc, il faut les maîtriser. C'est pas traumatisant pour tout le monde, ça?
Oui, effectivement. C'est un milieu qui est assez difficile où il y a des enfants de 6 à 12 ans, donc d'âge primaire, qui peuvent pas aller dans des écoles régulières, des écoles adaptées, parce que justement, c'est des enfants où la santé mentale est très fragile, ils ont des troubles anxieux très pointus, aigus, ils peuvent avoir vécu de la violence à la maison, présentent des symptômes parfois de choc post-traumatique. Et effectivement, là, avant le printemps, donc avant le mois de mai, les interventions, si on devait, par exemple, il y avait une décompensation et il devait y avoir un arrêt d'agir, donc un arrêt physique auprès du jeune. Il devait se faire malheureusement devant les autres enfants, étant donné le manque de personnel. Il ne pouvait pas laisser la classe seule. Donc oui, parfois ça devait se faire devant les autres enfants, effectivement. Oui,
d'après
pas
vous,
facile.
Moi, ça me ramasse un point de fou. Ben, peut-être vous savez, mais ça fait 30 ans que je travaille pour le refuge. On est bien content de travailler en aval puis d'essayer de sortir de la rue nos jeunes multipoqués. Mais je me demande tout le temps, on pourrait-tu essayer, Asti, pardon, je me permets de sacrer aujourd'hui, d'en fabriquer en amont. C'est parce que ça arrive pas du jour au lendemain, la rue. C'est une suite d'événements comme ça dans la vie d'un enfant qui les amène à la rue. Et là, je me demande, quand est-ce que la situation s'est dégradée à ce point-là, là?
En fait, ça date, je vous dirais, là, depuis au moins 2017, là, selon... ce que j'en sais, où il y a un énorme manque de personnel, étant donné que c'est un milieu qui est très difficile. C'est un milieu où il y a de la violence à tous les jours. Il peut y avoir parfois des codes blancs, des fois une fois ou deux durant la journée, des codes blancs, donc où les usagers peuvent devenir violents. Et on doit désamorcer ces crises-là. On doit être capable de voir les
signes
précurseurs.
Par la force, hein, on se dit, ils doivent être maîtrisés
par la force.
Ça dépend,
des fois, faut prévenir bien avant. Donc, quand on est bien formé, on peut prévenir, on peut voir les signes précurseurs avant d'en arriver à la force, exactement.
T'sais,
donc,
c'est bien sûr
les interventions qui préconisent.
Oui, j'ai été donné une conférence à un moment donné à Louis H. Et puis, il y a beaucoup d'intervenants qui m'ont apostrophé pour venir me parler dans un coin et qui voulaient que je mentionne quelque chose que je vais faire aujourd'hui. C'est l'angoisse de compassion. Ça, c'est notre personnel soignant. Il me donnait l'exemple d'un psychiatre qui a essayé d'aider un de ses patients, qui était un monsieur très âgé, qui n'avait pas le moyen de se payer un logement puis ses médicaments. Fait qu'il vivait dans son char. Il a essayé d'y trouver des ressources pendant 6 mois. Il n'a pas réussi. Et le psychiatre s'est pendu. Alors, c'est ça qui arrive aussi. Il y a un prix à payer aussi pour nos intervenants. Alors, plus on coupe des ressources, plus on double le travail des autres à faire. Et c'est du travail en état de crise. Faut être équipé émotivement Et puis, même si on est équipé émotivement, à un moment donné, à surcharger, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on crée beaucoup d'angoisse de compassion chez le soignant, puis on crée de l'angoisse tout court, puis de l'anxiété grave chez les enfants aussi. Je me trompe?
Mais non, exactement. En fait, depuis 2017, l'équipe en place, là, c'est environ 8 personnes. On parle de 4 psychoéducateurs, de 2 éducateurs, de 2 à 3 éducateurs, 2 psychologues. Depuis 2017, en fait, en 2018, il y a 5 personnes des 8 qui sont parties. Parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils étaient épuisés, parce qu'ils n'étaient pas supportés, parce qu'ils manquaient de personnel. Il y avait beau le dire et dire « oui, on affiche les postes, ne craignez pas, on affiche les postes, mais personne ne pose leur candidature ». Non, 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 non. On doit faire du travail en amont. On doit premièrement valoriser la profession. Ce sont des milieux difficiles. Il faut reconnaître que ce soit des milieux difficiles, mais apporter le support adéquat, apporter la formation quand ils en ont besoin. S'assurer d'avoir un milieu stable, sécuritaire pour les intervenants, pour qu'ils veulent rester au quotidien avec ces jeunes-là qui ont besoin d'aide.
Ouais, ben c'est pas des gens qui partent avec la mauvaise volonté, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout.
Exactement, exactement. Donc, on a besoin de personnel. Actuellement, là, ils sont 2 éducateurs en poste. Tous les autres sont, cet été, là, tous les autres, après ça, sont partis. Donc, on a pour la première fois un espoir, étant donné que le gestionnaire qui est en place depuis le printemps comprend la situation, veut engager, essaie de revoir l'organisation du travail pour que ça soit un peu plus facile. Mais ça fait des années qu'ils demandent ça. Donc, tous les gens qui étaient en place, formés, qui connaissaient les jeunes. Exactement, exactement. Il en reste 2, donc ils tiennent le fort. C'est sûr que pendant l'été, les jeunes ne sont pas là actuellement, étant donné que c'est la même chose.
J'imagine la pression sur ces 2-là qui restent. Ça n'a aucun bon sens.
Effectivement.
Est-ce que vous croyez que les fusions en superstructure du ministre Barrette, qui était à l'époque ministre de la Santé, ça y est pour quelque chose?
Mais moi, je vous dirais que oui, certainement. Vous savez, en ayant une extrêmement grande structure, en ayant diminué les gestionnaires, bien, présentement, tout ce que l'administration fait, c'est éteindre les plus gros feux. Donc, il n'y a aucune prévention qui est faite en place. En fait, ils essayent, mais quand on manque de bras, la prévention n'est pas faite. Donc, on éteint les gros feux, puis on se croise les doigts pour qu'il n'y ait rien de grave qui se passe. Puis, quand il y a quelque chose de grave, bien, là, on va intervenir. C'est comme ça que ça se passe depuis longtemps. Donc, ça pour rien, là.
Parce qu'on le sait en plus que quand il y a des coupures ou des fusions ou quoi que ce soit, c'est toujours, dans tous les soins de santé, c'est la santé mentale qui écope en premier.
Effectivement.
Ça, on le sait toujours, c'est le parent pauvre de la santé au Québec, mais parce qu'on a de la misère à comprendre que c'est de la vraie souffrance, surtout chez nos enfants. Il y a eu l'histoire, il n'y a pas longtemps, là, dans les Laurentides, une petite fille hyper douée, la petite Lily, 13 ans, elle avait besoin de soins parce qu'elle avait des pensées suicidaires et on l'a mis sur une liste d'attente. Moi, c'est parce que pensée suicidaire puis liste d'attente dans la même phrase, c'est un blasphème pour moi. Ça fait aucun bon sens, ça.
Exactement. C'est pour ça qu'on doit revoir non seulement la commission qu'il va y avoir là, pour la DPJ. Ça doit être beaucoup plus large que juste un mandat pour la DPJ. On doit faire de la prévention en amont. Donc, ça veut dire qu'on doit aller voir la première ligne. On doit aller au niveau des écoles. On doit mettre des ressources en prévention, comme vous le dites, pour être capable, pour éviter de se rendre jusqu'à la fin dans les milieux de la DPJ. C'est supposé d'être le bout de la ligne. Donc, en principe, en première ligne, par exemple, au pavillon Lyell à l'Institut Douglas, mettez des intervenants, des gens en place, faisons de la prévention aussi dans les milieux scolaires pour éviter que ça se rende trop loin.
Oui, style un psychologue et un orthopédiste par 4 écoles, ça ne fonctionne pas. Ça en prend 10 par école.
Exactement. Il faut plus de personnel formé pour nos jeunes. Ce sont, vous savez, c'est la responsabilité de tous, les enfants. Hein? C'est notre futur de demain.
C'est
donc
nos
on
enfants
a besoin.
Tous collectivement.
Exactement.
Il me semble que c'est quand on fait, comme le ministre Barrette a fait une super fusion, là c'est des énormes structures, évidemment, ça change à la tête. Là. Alors là, si vous aviez un patron, par exemple, qui était très au fait et qui voulait vraiment s'occuper des enfants, il y a beaucoup de postes qui changent. Puis le gestionnaire qui arrive, lui, est beaucoup plus haut. Il gère une super structure. Est-ce qu'il est aussi au courant des problèmes des enfants que l'ancien gestionnaire était dans son domaine?
Bien, c'est sûr que depuis le printemps, je vous dirais que la personne en place est très au fait de ce qui se passe, étant donné qu'il y a eu des rencontres d'équipe régulières pour justement regarder la structure et plutôt la structure du travail et revoir les façons de faire, puis mettre ensemble des solutions et les regarder ensemble. Donc ça, ça a été fait. Mais à la base, si on parle d'un grand CIUSSS, non, c'est pas toujours le cas. Les rencontres d'équipe sont beaucoup plus rares. Les gestionnaires sont tellement loin. Donc, la pression, elle est sur les professionnels, les techniciens en place constamment, étant donné que le gestionnaire n'est plus là pour gérer. Donc, les professionnels doivent faire ce qu'ils peuvent en plus du travail qu'ils ont actuellement à faire et en plus de la surcharge. Donc, vous imaginez, la pression, elle est extrêmement grande sur les intervenants présentement sur place.
Bon, donc, les superstructures, moi, je trouve que ça déshumanise.
Exactement.
Et puis, j'en reviens juste pas encore. je vais passer, mais c'est parce que j'en reviens pas encore, mais c'est parce que moi, je les rencontre plus vieux après ça. Puis évidemment, on voit un film comme le film de Paul Arcand, Les voleurs d'enfance, on pleure, toute la gang. Alors, c'est comme ça pendant un mois, puis après ça, ça recommence. Puis aussitôt qu'ils atteignent un âge, tu sais, 18 ans, là, on leur dit que c'est de leur faute. Ils ont juste à se trouver un job. Mais c'est la même histoire qui se répète depuis le début. Ils n'ont pas eu d'aide à l'école. Ça allait mal dans la famille. Ils se sont ramassés, par exemple, à l'Institut Douglas, mais à plein d'autres endroits, où la grande détresse n'est pas prise assez au sérieux, ou en tout cas, on leur donne absolument pas de moyens, en créant de la détresse dans le personnel. Là, je suis bien content de vous parler, Mme Asselin, de parler d'une déléguée syndicale. Je me demande où est le DG. J'aimerais bien ça qu'il nous appelle. J'aimerais ça parler au DG. J'ai vraiment des questions pour lui. C'est lui qui peut répondre. J'aimerais bien...
Pour
bien
Mme, oui. Ami.
Oui. Ah, écoutez, Mme Asselin, je vous remercie beaucoup. Et puis,
c'est un plaisir.
Ben, j'espère qu'on va se reparler. Je vous remercie d'avoir pété cette balloune, comme on dit. Au retour de la pause, on prend vos appels. Est-ce qu'on prend la situation assez au sérieux quand il s'agit de santé mentale au Québec, spécialement pour nos enfants? Ça, c'est le numéro pour nous rejoindre. Voici, c'est le 514-790-9850. En dehors de la ville, c'est le 1-866-790-9850 ou par courriel à Dan. A commercial 98.5fm.ca. Je veux savoir. À tout de suite. Je vais vous reformuler un petit peu mieux la question que j'envoie à Tribune aujourd'hui. Avez-vous déjà eu de la difficulté à obtenir de l'aide en santé mentale pour vous, vos proches ou vos enfants? Alors, je vous rappelle les façons de nous rejoindre. À Montréal, c'est le 514-790-9850. Si vous êtes à l'extérieur de la ville, c'est le 1-866 pour que l'appel soit gratuit, 790-9850. On prend vos appels, puis on débute par Linda. Bonjour, Linda.
Oui, bonjour.
Oui, vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Moi, j'ai eu deux expériences, donc, avec une jeune adulte et oui. Aussi pour aînée. Donc, j'ai les deux extrêmes, c'est de la famille.
Oui.
Et puis, premièrement, pour la jeune adulte, ça a été plus 2 ans avant qu'on puisse avoir de l'aide.
Deux ans de liste d'attente.
Ça a bien été. 2 ans avant qu'elle ait pu avoir de l'aide. Finalement, elle a dû être hospitalisée. Et je voulais parler surtout des lieux à Douglas parce que c'était aberrant. Moi, j'ai pas dormi pendant les 2 premières nuits que ma fille était là. Je n'ai pas dormi parce que les lieux, ça n'a pas de bon sens avoir des gens qui demeurent là-dedans. Le manque de personnel, donc le personnel sont épuisés, intolérants. Et puis les chambres, la peinture sur les murs, les ascenseurs, tout. Je veux dire, la personne est déjà en santé mentale. Elle a déjà un problème soit de dépression, d'anxiété.
Elle est déjà en détresse.
Sinon, oui, puis on la met dans un lieu qui n'est pas encourageant. Tu sais, il y avait des sofas, mais tout déchiré, des lits.
Non, mais c'est extrêmement déprimant. Puis je vous rappelle qu'à Douglas, sur 8 intervenants, il en reste 2. Je veux dire,
oui,
à 2,
exactement.
Comment ils peuvent faire une bonne job?
Non, exactement. Ils deviennent intolérants, les employés. Ils sont épuisés. Quand on est épuisé, on est moins tolérant.
Mais c'est certain.
C'est des êtres humains aussi, ces gens-là.
Oui,
alors, je vais vous dire que moi, l'expérience, je veux dire, par la suite, là, elle a un bon suivi. Une fois que tu es pris en charge, autant que la personne âgée que ma fille, ils ont des bons suivis maintenant. Mais le temps que ça a pris pour avoir des suivis et aussi le moment qu'ils ont été hospitalisés, que ça n'avait pas de bon sens.
Donc, si je résume ce que vous me dites, c'est l'enfer de rentrer dans le système. Mais une fois dans le système, on s'occupe. On s'occupe des gens en détresse.
Oui, exactement. Une fois que tu es pris en charge, je crois qu'il y a vraiment un bon suivi, il y a du support, les outils sont donnés là pour les gens.
Parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est quand on est soigné, il y a du personnel dévoué. Moi, je reviens pas les infirmières qui font des doubles et triples shifts puis qui réussissent à pas faire d'erreurs médicales puis qui sont dévouées du début jusqu'à la fin. Moi, ça me scie littéralement. Faut être dévoué dans la vie. Merci beaucoup, Linda.
Oui. Alors, on a un autre.
Merci, au revoir. On a Marie-Christine au bout de la ligne. Bonjour, Marie-Christine.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, moi, je vais très bien.
Oui, alors. Écoutez, moi, j'ai un petit garçon de 8 ans qui va à l'école régulière, qui a un diagnostic d'autisme Asperger, qui a un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité et dysphasie. Et puis, c'est une difficulté à avoir du service. Notre garçon a commencé à avoir des idées noires à l'automne, jusqu'au point d'en écrire une liste de suicide. Puis, lorsqu'on a adressé au centre régional pour avoir du support à cet effet-là, ils ont suspendu ses formations qu'il avait d'habileté sociale pour l'aider en tant qu'autiste, étant donné qu'il avait besoin urgent d'une intervenante au niveau des idées noires. Puis, écoutez, ça fait 6 mois et on a finalement un rendez-vous la semaine prochaine après, je l'ai documenté, 15 appels de suivi de ma part. Donc, on parle d'un petit gars qui veut mourir.
OK. Parle d'un petit gars qui veut possiblement se suicider. On le met sur une liste d'attente de 6 mois, puis ça a pris une quinzaine d'appels avant d'avoir des soins pour cet enfant-là. Votre garçon a quoi? Il a 8 ans?
Il a 8 ans, oui.
Voyons donc.
Ça a pris une plainte. Tu sais, je vous dirais que le dernier appel qui a fait bouger les choses, c'est une plainte quand même assez importante. Mais tout ça pour dire que...
Bref, il a fallu que vous vous fâchiez noir, là.
Oui, puis c'est sûr qu'on est allé au privé entre-temps. On n'a pas laissé... sauf que, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens. Puis on les a pas nécessairement non plus, les moyens.
Non, mais on s'endette. On s'endette pour le faire.
Ben voilà. C'est sûr qu'il faut vraiment se battre. Puis tout ça pour dire que notre dossier s'était perdu, il semblerait. Donc, suivez vos choses, les parents.
OK. Je vais vous garder en ligne quand même pour plus tard. On va vous revenir. Pour l'instant, on a Pierre. Salut, Pierre.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va pas pire. Moi, mes expériences, c'est moi qui les ai vécues personnellement. Je suis un homme qui est rendu à 33 ans. Écoutez, j'ai eu des dépressions plusieurs fois dans ma vie depuis, je dirais, la mi-vingtaine. Et puis, moi, j'ai dû aller à une clinique sans rendez-vous parce que, bien sûr, j'avais pas de médecin de famille. Et puis, là, j'avais été, en guillemets, suivi par ce médecin-là. Et puis, il m'avait référé, il avait fait une demande de référence à un psychiatre parce que j'avais des idées suicidaires, puis j'étais en dépression, puis tout ce que vous voulez. Et puis, grosso modo, ça a pris presque un an et demi pour que je puisse finalement rencontrer une psychiatre dans un CLSC.
Alors, vous êtes en dépression, puis ça prend un an et demi avant d'avoir des soins?
Oui, malgré le fait que je partageais clairement des idées suicidaires au médecin général, généraliste. Et puis, même j'avais essayé de passer par les urgences de 2 hôpitaux. Et puis, grosso modo, c'était un infirmier là, qui avait été très honnête avec moi. Il m'avait dit, ben à moins que tu sois en train de, en guillemets, t'ouvrir les veines, ils vont pas te prendre. T'sais. Ils vont pas vouloir t'hospitaliser.
OK. Ça c'est donc, vraiment inhumain parce que la façon dont ils mesurent ça, pour eux autres, leur premier critère, je suis un peu intervenu dans des situations comme ça, c'est est-ce que leur patient a un plan précis? Quand il y a un plan précis, il voit que c'est pas léger, là, c'est déjà organisé. Donc, ça veut dire, ça, c'est un code rouge, là. C'est extrême danger. Il faut s'occuper de la personne.
C'était pas un plan précis. Ça, je dois le dire, j'avais des idées morbides, mais c'était pas précis, comme vous dites, là, t'sais.
Est-ce que vous allez mieux maintenant?
Aujourd'hui, malheureusement, non, parce que là, j'ai retombé en dépression. Cependant, moi, j'ai finalement été diagnostiqué comme un trouble bipolaire.
Oui.
Mais ce que je voulais, quelque chose d'important que j'aimerais vous dire, c'est que après cette année et demie d'attente-là, j'avais vu finalement une psychiatre Ouais, un CLSC. Et puis, à ce moment-là, ma femme était sur le bord d'accoucher. Et puis, elle m'avait donné un médicament qui, j'avais eu vraiment des mauvaises réactions avec les effets secondaires. Alors, quand j'ai retourné la voir, on s'est entendu, elle et moi, que pour l'instant, on n'allait pas trop jouer avec les médicaments. On allait attendre que, en guillemets, mon fils soit plus âgé pour que là, on puisse prendre ça en charge.
J'ai un petit peu de difficulté à concevoir ça. Expliquez-moi. C'est parce que, j'ai des amis bipolaires qui sont sous traitement maintenant, qui s'en sortent beaucoup mieux, dont mon producteur du Show du Refuge chaque année, qui le dit publiquement. Il a parti d'une association, donc c'est pour ça que je le nomme. C'est ce qui est le plus facile à diagnostiquer, la bipolarité. Ça se fait avec une prise de sang, c'est que ton taux de lithium est tout déréglé dans ton sang. Et la façon, ça marche comme un peu un antidépresseur quand on est en dépression profonde. Ça ne règle pas la dépression, mais tous les messages dans notre cerveau qui se transmettent du bonheur, eux autres sont fermés. Alors là, ce produit chimique-là, cette molécule-là, rouvre. Donc, on se sent bien pendant un temps, mais évidemment, il faut que ça soit suivi d'une thérapie, puis il faut aller mieux, pas chimiquement, mais pour de vrai après. Mais en urgence, on commence par donner l'antidépresseur. Maintenant, pour la bipolarité, c'est la même chose, il me semblait. Si on part des dérivés du lithium, évidemment, puis on re-règle le sang. Ça n'a pas été fait dans votre cas, ça?
Bien, écoutez, aujourd'hui, je sais que c'était pas normal. Que non, j'ai jamais eu de prise de sang pour le lithium précisément. Quand j'étais seulement avec le médecin généraliste, il m'avait prescrit des antidépresseurs, mais c'était tout. Et puis, quand j'ai vu pour la première fois une psychiatre, elle m'avait donné, dans le fond, un médicament qui s'appelle du Abilify. Et puis ça m'avait zombifié complètement, ça me faisait pas du tout. Mais bon, après avoir eu mon fils, grosso modo, il y a eu un an qui a écoulé. Et puis là, j'ai demandé à revoir la même psychiatre. Et étant donné que ça faisait un peu plus qu'un an que je l'avais pas vu, ils avaient décidé de fermer mon dossier. Puis je suis très...
Tout est guéri pour eux autres. Là.
C'est ça, là. Fait que là, il a fallu que je me réinscrive encore sur sa maudite liste d'attente.
Allez-y, oui.
Et puis là, ça a pris encore une fois près d'un an, malgré que c'était vraiment précisé, urgent, tout ce que vous voulez, là, par mon médecin.
Êtes-vous soignant en ce moment?
Oui. Oui, là, aujourd'hui, monsieur, là, la deuxième psychiatre que j'ai vue, c'est une perle. D'accord? Pour éviter toute fermeture de le dossier, on se voit régulièrement. Et puis là, aujourd'hui, je suis mieux médicamenté, ça va bien. Sauf qu'il y a quand même des périodes, quand j'ai des périodes plus difficiles, ben là, j'ai tendance à retourner en dépression. Je veux pas. Parce que j'ai une certaine fragilité.
Ben je comprends très, très bien. Puis je comprends que ces choses-là, c'est des choses qu'on porte toute notre vie aussi. Il doit y avoir un suivi là-dessus, c'est certain. C'est de la souffrance, puis c'est l'expression de cette souffrance-là qui passe par ce qu'on catégorise comme maladie mentale. C'est des soins qui méritent d'être prioritaires. Je vous souhaite bonne chance, monsieur.
Juste une dernière chose, monsieur, avant qu'on se quitte.
Oui.
Moi, je travaille en milieu hospitalier. D'accord?
Oui.
Et puis, il y a un énorme manque de personnel, il y a un énorme manque de reconnaissance, et il y a beaucoup, on le voit, le taux d'absentéisme ne fait que grimper.
Ils en peuvent plus.
Parce que je veux dire, tu sais, on a toutes nos vies personnelles avec nos problèmes quotidiens, en guillemets.
Oui.
Puis là, quand même à la job, c'est rendu le bordel. Bien, ça ne veut pas, ça affecte sur le moral.
Ben, on en parlait tantôt, l'angoisse de compassion et tout ça. Hey, je suis désolé de vous couper, ça ne me tente pas, mais je dois prendre au moins un autre appel avant d'aller à la pause. Merci beaucoup, Denis.
Merci pour votre tribune.
Bonne chance. Au revoir. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Oui.
Moi, j'appelle parce que, dans le fond, un peu comme tu disais précédemment, moi-même, je travaille dans le milieu de la santé. J'ai ma mère qui s'est suicidée il y a 10 mois. Et mon frère, il y a 4-5 ans, j'avais déjà appelé il y a 2-3 semaines, c'est pour déplorer le manque de ressources, l'attente. Comme moi-même, j'avais essayé d'avoir de la aide là, pour m'aider dans mon suivi par rapport aux deux suicides. C'est très, très, très difficile. Puis moi-même, en travaillant, comme je vous dis, dans le milieu hospitalier, je travaille comme infirmière d'hier. Les manques de ressources qu'on a, la personne est consultée d'urgence, on lui donne congé tout de suite après. Ou combien de fois j'ai tenté de faire aider ma mère, que finalement, ils l'ont tout de suite le lendemain. OK, ben c'est beau, bye-bye, merci.
Ben, ils font ça avec mon jeune bébé. Ils soignent dans une crise aiguë, mais ils laissent repartir le lendemain avec deux, trois pilules.
Exactement. Ça a été le cas pour mon frère. Lui, il avait 27 ans quand il a mis fin à ses jours. Puis ma mère, ça a été la même chose. Elle aussi, elle a mis fin à ses jours. Elle était suivie il y a quelque temps. C'était à 2-3 heures d'ici. Après ça, elle a déménagé dans le coin de Montréal. Puis on n'a jamais été capable de trouver de l'aide pour l'aider, là, moi et ma famille. Puis c'est vraiment là, désolant. Puis je vous en parle comme c'est très fâchant.
C'est parce plus que désolant et fâchant. C'est vraiment désespérant, Véronique. Il faut comprendre que la souffrance extrême, ça mène à la mort si on s'en occupe pas. Je comprends pas que, comme société, on accepte ça comme ça. Je pense qu'on l'a accepté budget après budget, centimètre après centimètre, mais on est rendu en apathie totale dans nos soins envers des gens qui souffrent. J'aimerais beaucoup qu'on comprenne ça puis qu'on se fâche un petit peu. Je dois vous couper, Véronique, je dois aller à la pause. Merci infiniment pour votre appel. Bonne chance. Au retour, on reçoit Maître Manuel Johnson du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud. Il y a des victimes d'actes criminels qui mènent une bataille pour faire reconnaître leurs droits. Alors, bougez pas là, bougez pas de là. Et puis après ça, on a une petite surprise aussi. On a notre lieutenant-gouverneur et aussi ancien astrologue, Julie Payette, plus tard, après la pause.